Chapitre 7. Le dentiste, un homme dont les joues flasques et le nez zébré de vaisseaux sanguins éclatés trahissaient l'habitude de se servir chaque soir 3 whiskies secs d'affilée, orienta sa lampe vers la bouche de Roman et fit claquer sa langue. « Je pourrais vous poser un bridge, » proposa-t-il. « Après, il y a toujours l'option implant, mais c'est plus cher. Beaucoup plus cher. » En général, les mutuelles mettent plusieurs semaines avant de valider la prise en charge, mais... Roman ne le laissa pas terminer. La veille, en rentrant, il avait fait un bain de bouche antiseptique. L'espace d'un instant, la brûlure lui avait fait oublier la douleur. Mais les arômes chimiques du produit n'avaient rien pu faire pour masquer le goût cuivré de son propre sang. D'ailleurs, il avait toujours l'impression de sucer un morceau de métal. « Je veux des implants, » le coupa-t-il, « et je les veux aujourd'hui. » « Je paierai en carte. » Le dentiste grimaça. Ses bajoues lui faisaient comme une deuxième paire de lèvres. Monsieur Carruthers comprenait que la pose d'un implant peut aller chercher dans les... « C'est une American Express Black, » l'interrompit à nouveau Roman. « Faites ce que je vous dis. » Dans sa tête, il se revit enfant. Un enfant avec une brosse à dents en forme de crocodile et une pilule rouge que l'infirmière de l'école primaire lui avait demandé de croquer, pour révéler les endroits où du tartre s'était formé. À ces endroits étaient censés apparaître des taches rouges vives, comme si on avait mordu dans un steak cru. Il se revit devant le miroir, avec son sourire cramoisi. À cette époque, son père et sa mère travaillaient tellement dur pour financer la construction du crématorium qu'ils n'avaient pas le temps de vérifier que Nevea, Dante et lui se brossaient correctement les dents. Quand l'entreprise qu'il avait créée avait décollé, Roman avait investi plusieurs milliers de dollars en facettes dentaires et en détartrage régulier. Car avant de lui confier l'argent qu'il cherchait à dissimuler à l'oncle Sam, à leur femme ou à leur mari, ses riches clients potentiels voulaient d'abord se convaincre que Roman faisait partie du même monde qu'eux. Au moindre indice indiquant le contraire, ils auraient détalé et seraient retournés se réfugier dans leur tour d'ivoire. Jamais ces gens-là n'accepteraient qu'un pauvre gère leur fortune. Et donc, chaque fois, ils observaient ses vêtements, écoutaient sa façon de parler, examinaient ses dents comme s'il était un cheval à vendre. Torrent et Tranquil venaient d'éparpiller au sol ces milliers de dollars que Roman avait investis. Dante avait raison. Roman les avait sous-estimés. Torrent, Tranquil et leur sbire avaient vu sa belle montre et ses beaux habits et en avaient déduit qu'il était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ils l'avaient jugé trop tendre. Roman considérait qu'il y avait beaucoup de choses qu'il n'était pas. Il n'était pas un gangster. Il n'était ni un bon fils, ni un bon frère, ni un bon petit ami. En revanche, il n'était pas tendre. Torrent et Tranquil n'avaient vu que la surface de ce qu'il était, ou plutôt de ce qu'il était devenu. Ils n'avaient pas scruté son regard, ils n'avaient pas sondé son âme. Sinon, ils y auraient trouvé un rocher aussi solide et inébranlable que les grandes pyramides. Ils avaient vu Roman Carruthers, le gestionnaire financier. Ils ne savaient pas ce dont il était capable pour atteindre ses objectifs. Et en cela, ils avaient commis une erreur. Car Roman n'avait pas oublié l'époque où sa famille habitait dans le sud de la ville, près de la gare de fret, dans un quartier appelé le Skids. Un endroit où flottait en permanence dans l'air la fumée poisseuse des locomotives diesel. Le Skids, où l'on pouvait trouver le Pink House, l'unique bordel de Jefferson Run, était un no man's land qui abritait des bureaux d'encaissement de chèques, des bâtisses en parpaing qui faisaient office d'épicerie, ainsi que des bars miteux et des casses automobiles qui avaient poussé comme du chien dent entre les magasins aux vitrines condamnées et les entrepôts de tabac abandonnés. À cette période, leur père et leur mère travaillaient d'arrache-pied afin d'espérer obtenir le prêt nécessaire à la construction du crématorium, et la famille vivait là. Non, dire qu'elle vivait était un euphémisme. Elle survivait. Elle luttait. Car le Skids avait le don de briser ou d'écraser ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Si grâce à leurs parents, Roman, Dante et Nevea avaient réussi cet exploit, le Skids avait malgré tout eu le temps de leur enseigner certaines leçons. Roman passa le bout de sa langue sur ce qui restait de ses incisives. Ce n'étaient pas les premières dents qu'il perdait. Enfant, à la suite d'un match de basket improvisé que son équipe avait remporté, il avait reçu un coup de bouteille en verre de la part de Lomelo Green, qui lui avait coûté une molaire. En rentrant chez lui, Roman avait tout raconté à ses parents. Mais ceux-ci étaient trop distraits pour l'écouter. T'es l'aîné, Rome, avait simplement commenté son père. Il serait temps que t'apprennes à te défendre.
Mais j'ai 14 ans,
avait murmuré l'adolescent. 3 heures plus tard, Roman se gara devant la maison. Dante était allongé sur le canapé, la main gauche enveloppée dans un énorme pansement. Dès le départ des frères Gilchrist et de leur suite, Roman avait emmené son frère aux urgences. Il avait pris soin de glisser l'auriculaire sectionné dans un sac de glaçons. En vain, de l'avis du jeune interne noir qui avait nettoyé la plaie, le doigt était trop endommagé pour être rattaché.
« Ceux qui vous ont fait ça ne voulaient pas que vous le récupériez », avait-il souligné.
Après avoir recousu le crâne de Roman et rafistolé le moignon de Dante, il les avait renvoyés chez eux. Roman notait une certaine ironie dans le fait qu'ils aient tous deux versé du sang dans l'édifice que leur père avait bâti, avant de se faire soigner dans l'hôpital où leur mère avait exercé.
« Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour rendre visite à papa ?»
avait suggéré Dante lorsque les antalgiques eurent fait effet. « Je veux pas le voir alors que je suis dans cet état », avait répliqué Roman en exhibant son sourire édenté. Et Dante n'avait pas insisté. Roman s'approcha du canapé et posa la main sur l'épaule de Dante, qui mangeait un énorme bol de céréales devant un dessin animé. Il songea que ce n'était pas de la nostalgie de la part de son frère. Non, de bien des façons, Dante était encore un enfant. Un bambin égaré dans une forêt et qui n'avait pas conscience du danger grandissant qui rôdait.
« Comment tu te sens ?» demanda Roman.
« Comme une merde. Les médocs que m'a filé le docteur ne marchent pas.
T'as mal ?»«
Non, juste mon doigt qui me démange alors qu'il est plus là. »«
Si t'as pas mal, c'est que les médocs font effet. Où est Nevea ?»«
Je sais pas, elle a parlé d'aller voir les flics. »
Entre ce qui nous est arrivé, l'accident de papa et le coup des pneus crevés, elle se dit que quelqu'un en a après nous.
Dante posa son bol sur la table basse.
« Tu crois pas qu'on devrait lui expliquer, Rome ?» ajouta-t-il. « Elle a le droit de se protéger, non »
« C'est-à-dire ?»«
Comment ça, c'est-à-dire ? Je pense qu'elle a le droit de savoir, c'est tout. »
« Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle y fasse ?
Comment le fait de savoir ce qui se passe changerait quoi que ce soit pour elle ?»
Nevea se sent responsable de toi, elle s'inquiète pour papa et en plus elle doit faire tourner la boutique toute seule. Tu crois pas qu'elle se fait déjà assez de nœuds au cerveau ?
Non, c'est à nous de gérer, pas à elle.
Gérer quoi ? Ils m'ont coupé le doigt, Rome !
S'écria Dante et il éclata en sanglots, la tête entre les mains. Roman poussa les jambes de son frère pour s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Puis il le prit par les épaules et se mit à le bercer doucement.
« Cet enfoiré a écrabouillé mon petit doigt comme un vulgaire cafard, Rome !»
pleurnicha Dante.
« Toi, t'as pu te refaire les dents, mais moi, je resterai comme ça toute ma vie !»«
Écoute, je sais que ça en a pas l'air, mais on a eu de la chance hier soir. Ils allaient te tuer juste par principe. C'est leur cupidité qui nous a sauvés. Et j'ai bien l'intention de m'en servir pour les faire tomber. »
Dante essuya ses larmes avec son vieux t-shirt « Born in the USA ».«
Qu'est-ce que tu racontes, Rome ?» T'as oublié ce qu'ils nous ont fait ou quoi ? Qu'est-ce que tu me parles de les faire tomber ?
Souviens-toi de ce qu'ils ont dit. C'est eux qui décident combien tu leur dois. Ils vont nous essorer, et quand on sera à sec, ils nous supprimeront. Quoi qu'on leur donne, ce sera jamais assez. Je propose le triple, ils m'en demanderont le quadruple. Je leur file 50 000 par mois pendant un an, l'année d'après, ils exigeront 100 000. Ils nous lâcheront jamais. La seule solution, c'est de se débarrasser d'eux, définitivement.
Et on peut savoir comment tu comptes t'y prendre, parce que ton plan d'hier soir était à chier.
Roman retira son bras de l'épaule de Dante.
J'ai l'impression que t'oublies que c'est tes conneries que j'essaie de réparer, dit-il. Je reconnais une erreur. J'ai cru que mes compétences professionnelles suffiraient à les amadouer.
T'avais raison, ces gars sont des monstres. Sauf qu'un monstre, c'est juste un animal dont on n'a pas encore compris le fonctionnement. Et il se trouve que j'ai compris comment fonctionnaient les Gilchrist. Ils sont guidés par la cupidité. C'est leur faiblesse. Alors oui, j'ai un nouveau plan. Mais puisque t'as des doutes, écoutons d'abord le tien. Explique-moi comment tu comptes t'y prendre pour te sortir de cette situation. Vas-y, je suis tout ouï.
Dante resta silencieux. Il tendit la main vers le flacon de médicaments posé à côté de la télécommande, le dévissa et goba un comprimé. Puis il reprit son bol et se remit à manger.
Enfin, après plusieurs minutes, il se décida à parler.
« Je suis désolé, » lâcha-t-il. « Je sais que vous en avez marre de vous occuper de moi. Je fais que de la merde et c'est toujours à vous de rattraper mes conneries. Vous devez avoir l'impression de nettoyer une flaque de sang. Plus vous frottez, plus ça s'étale. »
« C'est pas comme ça que je vois les choses. T'es mon frangin et je t'aime. De même que j'aime Nevea et que j'aime papa. Mon rôle est de te protéger et j'ai échoué. Peu importe comment on en est arrivé là, j'ai échoué. Mais je vais me rattraper, je te le jure. Je vais te sortir de là. »
Dante hocha la tête. Roman lui donna un petit coup de poing dans l'épaule.
« J'ai des coups de fil à passer, » dit-il. « Ça va aller? T'as besoin de quoi que ce soit? Si t'as un doigt en rab, je suis preneur. »
Roman le dévisagea, et quand il vit le sourire de Dante, il ferma les yeux et secoua la tête. Lorsqu'il les rouvrit, lui aussi souriait, mais le cœur n'y était pas.
« Je reviens, » promit-il, et il se dirigea vers le bureau de leur père.
Dante regarda Roman s'éloigner dans le couloir et attendit que la porte du bureau se ferme. Une fois certain que son frère ne pouvait plus l'entendre, il sortit son portable de sa poche et composa le numéro de Getty. Il tomba directement sur le répondeur, comme toutes les fois où il avait essayé de le joindre depuis quelques heures.
« Hé, mec, c'est moi !» dit Dante. « Il faut que tu foutes le camp et vite ! Appelle-moi quand t'auras mon message !»
Il raccrocha et composa un autre numéro. Là encore, il tomba sur le répondeur.
« Écoute, Cass, tiens-toi éloigné de Getty ces prochains jours. Le truc qu'on faisait là, c'est en train de partir en couille. Et je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je... À plus. »
On ne pouvait pas vraiment parler de liaison entre Cassidy et lui. Tous les trois, ils avaient passé plus d'une nuit ensemble. C'était détendu, ouvert, progressiste. Mais Dante aurait préféré que ce ne le soit pas autant. Il supposait qu'il l'aimait, si tant est qu'il fût apte à aimer quelqu'un depuis la disparition de sa mère. Il ignorait pourquoi Roman avait cru bon d'évoquer Getty devant les frères Gilchrist. Mais il n'y avait pas besoin d'être un génie pour deviner que si les Black Baron Boys l'avaient épargné, ce serait son associé qui servirait d'exemple. Peut-être que Getty était descendu se cacher à Virginia Beach, où, prétendait-il, il avait de la famille. Quant au salon de tatouage où il bossait, il n'ouvrait pas avant midi. Dante essaierait d'appeler dans une heure pour vérifier si Getty était venu travailler. Il enfourna une cuillerée de céréales. Malgré les protestations de son estomac, il se força à avaler. Parce qu'il ne pensait pas que Getty se présenterait à son boulot. Ni aujourd'hui, ni demain, ni plus jamais. Roman composa un numéro de mémoire et attendit. Après deux tonalités, la voix grave de Khalil répondit.
« Quoi de neuf, mec? Comment va ton père? T'as bien reçu le colis ?»«
Mon père est toujours dans le même état. Et ouais, j'ai reçu le colis. Je t'appelle parce que j'aurais besoin que tu me rendes un autre service. »«
Envoie-moi ça par WhatsApp, »
dit Khalil, et il raccrocha. Roman ouvrit l'application de messagerie et fit un rapide résumé de la situation à Khalil.
« Il faut que tu parles à Sasha Billings, » tapa Roman. « Dis-lui que je veux le traitement complet. Ensuite, demande-lui de transférer les fonds sur un compte de crypto et rejoins-moi ici. Je te paierai pour le temps et le déplacement. »«
Bien reçu, » répondit Khalil. « J'arrive demain soir. »
Pas de question. Une simple confirmation. Roman songea qu'avoir un ami comme Khalil était à la fois la meilleure et la pire chose qui lui soit arrivée. Khalil était un ancien ranger de l'armée américaine qui, après son service, avait passé quelques années en tant que mercenaire, avant de s'orienter vers la sécurité au service des riches infréquentables d'Atlanta. Roman avait fait sa connaissance quand un de ses clients, un illustre joueur de NFL, avait eu besoin de verser un pot de vin à un stripteaseur vaguement célèbre qui avait été son amant et qui le faisait chanter. Roman avait débloqué les fonds et Khalil s'était chargé de la transaction. Un mois après, le maître chanteur avait mystérieusement disparu. Plusieurs blogueurs prétendaient que le stripteaseur s'était perdu lors d'une randonnée en Californie. Roman était à peu près sûr que ces blogueurs avaient été payés pour relayer cette information. La police n'avait pas franchement enquêté et après quelque temps, les nouveaux potins d'Atlanta avaient effacé jusqu'à son souvenir. Voilà le genre d'ami que pouvait être Khalil, à la fois fiable et terrifiant. Dans un premier temps, Roman avait besoin de l'ami fiable,
celui qui viendrait sans poser de questions. Dans un second temps, Roman ferait appel à l'ami terrifiant et lui indiquerait quoi faire. Car Khalil était l'équivalent d'un pistolet chargé. Il suffisait de le pointer dans une direction, que ce soit organiser un itinéraire sécurisé pour la cérémonie des Grammys, ou donner une leçon au petit copain d'une influenceuse qui avait eu la mauvaise idée de lever la main sur la poule aux œufs d'or, et il fonçait comme une balle. Roman voulait le pointer vers les frères Gilchrist et appuyer sur la détente jusqu'à ce que ça fasse clic. Assise dans la salle d'attente du poste de police de Jefferson Run, Nevea battait du pied la mesure d'un rythme qui n'existait que dans sa tête. Après quelques minutes, l'officier à l'accueil lui fit signe que c'était son tour, et elle se leva. « L'inspecteur Mansfield vous attend. » Il lui indiqua une porte sur laquelle figurait l'inscription « Salle d'interrogatoire numéro 1 ».«
Merci »,
murmura-t-elle. Elle pénétra dans la salle et referma derrière elle. Installée derrière une table en mélaminé, les mains en pyramide, Chauncey regarda Nevea prendre place sur la chaise en plastique située en face de lui. Les yeux noisettes du policier ressemblaient à deux braises incandescentes imbibées de whisky. « Qu'est-ce que tu fous là ?» lui lança-t-il en guise d'introduction. Les néons du plafond donnaient à sa peau noire un aspect cendré, qu'accentuaient les reflets gris de sa coupe à la brosse parfaitement taillée. « Mes frères se sont fait agresser hier soir. Quelqu'un a sectionné le petit doigt de Dante et je... « Eh ben, tu leur dis de porter plainte !» l'interrompit Chauncey. « Ou d'appeler les secours. Par contre, tu ne te pointes pas ici pour demander à me voir. Tu crois que sous prétexte qu'on se connaît, je vais faire de tes frères une priorité? Tu sais combien de personnes se font racketter chaque jour à Jefferson Run? Combien de personnes se font assassiner? Je ne vais quand même pas tout lâcher pour une agression dont ils n'ont même pas jugé nécessaire d'informer la police. Je me suis dit que tu pourrais poser quelques questions à droite à gauche. Mes frères ont salement dérouillé. Rome a les dents de devant cassées et Dante a un doigt en moins. Excuse-moi d'avoir pensé que tu serais au moins disposé à te renseigner. Tu sais, rapport au fait qu'on se bouffe régulièrement les parties intimes. Chauncey frappa dans ses mains et le son résonna dans la pièce comme une détonation. Il posa un index sur ses lèvres avant de le pointer vers Nevea. « Arrête !» dit-il. « Ne remets plus les pieds ici. Je suis marié. » Je suis parfaitement au courant de ta situation conjugale, Chauncey. Et tu savais que j'étais marié quand on s'est rencontré. Alors tu devrais te douter que tu peux pas te pointer sur mon lieu de travail pour exiger que je règle tes problèmes comme ton Robocop perso. Écoute, je ne te demande pas de traitement de faveur. Quelqu'un a essayé d'assassiner mon père. Et maintenant, c'est mes frères qui se font amocher. Je sais pas qui, et je sais pas pourquoi, mais quelqu'un en a après ma famille. Tout ce que je voudrais, c'est que tu te renseignes. Je suis prête à déposer une main courante, si ça peut faire avancer les choses. T'as une femme et des enfants. Tu dois bien te rendre compte que c'est une situation terrifiante, non? Je t'interdis de parler de ma famille, répliqua Chauncey. Merde, Nevea. C'est bien ce qu'on a tous les deux. Pourquoi tu veux tout gâcher? Nevea le dévisagea. Non, ce n'est pas bien, songea-t-elle. Ça nous fait du bien. Nuance. Et encore, je commence à avoir des doutes. Elle se leva. Est-ce qu'il faut que je dépose une main courante? Insista-t-elle. Surtout pas. Je tiens pas à ce qu'il y ait la moindre trace de ta présence ici. Tu me fatigues. Écoute, je vais me renseigner. J'ai quelques indices qui savent peut-être quelque chose. Mais ne reviens pas ici. Ne fais pas semblant d'ignorer que ce n'est pas une bonne idée. T'es trop futé pour ça. Elle repensa à leur rencontre, 6 mois plus tôt. Chauncey et son partenaire Vega étaient passés au crématorium pour examiner un cadavre dans la chambre froide. Victor Dearborn, qui avait essuyé une rafale de fusil automatique AR-15, alors qu'il était installé dans un fauteuil chez un barbier de High Point Street. Chauncey avait expliqué à Nevea que le médecin légiste avait malencontreusement effacé les photos des tatouages de Victor, et qu'il fallait donc en reprendre afin de déterminer si le Victor en question était un capitaine des Black Baron Boys ou un civil innocent. Après, je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de civils innocents qui se font dessouder chez le barbier pendant que les autres clients sont trop occupés à regarder leur téléphone, avait ajouté Chauncey avec un petit sourire. Ce sourire n'était pas ce qu'avait conquis Nevea. Disons qu'il s'agissait plutôt de la première goutte d'eau qui avait érodé le rocher. Après avoir pris ses photos, Chauncey lui avait demandé son numéro de téléphone, au cas où il aurait des questions supplémentaires. Nevea savait que les éventuelles questions de l'inspecteur aux jolis yeux n'auraient aucun lien avec le décès prématuré du pauvre Victor. Mais elle s'en fichait. Quel mal y avait-il à jouer au jeu de la séduction? À s'amuser un peu. Dieu sait qu'elle l'avait mérité. Et effectivement, elle avait vu l'alliance qu'il portait à l'annulaire. Mais c'était lui qui était marié, pas elle. Plus tard, quand Chauncey lui avait confié que sa femme ne le comprenait plus et qu'il aimait ses enfants mais que sa liberté lui manquait, elle s'était dit que même s'il était le seul à être marié, ils étaient bien égaux dans le péché. Et tout ça pourquoi ? 15 ou 20 minutes de gémissement menant à quelques instants d'une extase qui se dissipait aussitôt, telles les dernières notes d'une chanson d'amour mélancolique. Bref, elle avait vite conclu que tôt ou tard, elle devrait mettre un terme à leur liaison. D'un autre côté, elle voyait cette petite histoire comme un cadeau qu'elle se faisait. Chauncey n'était pas dégoûté de savoir qu'elle travaillait au contact de la mort. Il ne lui disait jamais sur le ton de la plaisanterie qu'elle sentait la chair brûler. Et surtout, il la touchait en des endroits qui n'avaient plus reçu de caresses depuis des années. C'était ce plaisir brûlant dont elle avait tant manqué qui la poussait à revenir, encore et encore. Il l'effleurait, il l'embrassait, et elle fermait les yeux, et prétendait qu'elle ne savait pas quel genre d'homme attendait que son épouse parte au chevet de sa mère malade pour donner rendez-vous à une amante dont le père était dans le coma. Et quel genre de femme cela faisait d'elle. Chaque fois qu'ils couchaient ensemble, Nevea, dans des moments de lucidité post-coïtale, découvrait un peu plus à qui elle offrait ainsi son corps. Et la conclusion qui se dessinait était sans appel. Chauncey était quelqu'un de foncièrement mauvais. Non pas qu'elle se voyait comme une oie blanche. Seulement, si ce qu'elle faisait était mal, cela ne faisait pas d'elle quelqu'un de mauvais. La différence était subtile, mais elle existait. Ainsi, la réaction de Chauncey au poste de police ne fut pas vraiment un choc pour Nevea. Évidemment qu'il ne lèverait pas le petit doigt pour l'aider au moment où elle en avait besoin. Nevea avait compris que, comme beaucoup d'hommes adultères, Chauncey éprouvait du mépris pour son amante. La bonne nouvelle, c'était que le sentiment était désormais réciproque. « Je commence surtout à me rendre compte que je suis trop futé pour pas mal de choses », répliqua-t-elle en se dirigeant vers la porte.